Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse donc à la mouvance de l'ultra-droite. Comme il l'avait annoncé, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc enclenché la dissolution de Génération Identitaire, l'occasion de nous intéresser ce soir à cette question. Alors, on va s'interroger sur cette menace intérieure. Qui sont ces groupes plus ou moins clandestins qui gravitent de la nébuleuse de l'ultra-droite, des structures qui ont souvent, on l'entendra ce soir, le culte de la violence et recherchent l'affrontement? Nationalistes, suprémacistes, néo-fascistes, qui sont-ils vraiment? Quelle est leur influence? On en parle donc ce soir avec nos invités. Sylvain Boulogne, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des mouvements sociaux et des extrêmes et auteur de Julien Le Pen, un lutteur syndicaliste et libertaire. C'est aux éditions de l'atelier Création Libertaire. Merci de votre présence. On en parle également avec Jean-Michel de Cugy. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter, police-justice au Parisien, auteur de La Poudrière avec Pauline Guéna et Marc Le Plongeon. C'est aux éditions Grasset, un livre absolument passionnant. C'est une plongée dans les réseaux de l'ultra-droite. Et on en parle également avec Jean-Yves Camus. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques et évidemment grand spécialiste de la question. Alors d'abord, sait-on précisément combien de groupes ou de structures sont considérés par cette appellation de la mouvance de l'ultra-droite, Jean-Michel?
Voilà, des dizaines de structures, de groupuscules, des centaines peut-être.
Vous avez un chiffre, vous, peut-être, Jean-Yves Camus?
J'ai un chiffre des militants et sympathisants, qui est d'ailleurs corroboré par les déclarations récentes de Laurent Nunez, c'est aux alentours de 3000 personnes, premier et second cercle, ce qui fait une stabilité numérique, et c'est très important, depuis une dizaine et une douzaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent,
oui.
Il y a des gens qui rentrent. Les oui. deux arrivent à se contrebalancer. Mais ce n'est pas une mouvance en explosion numérique. Il faut rappeler qu'en Allemagne, pays à population égale de la nôtre, il y a 26 500 militants ultra-droite recensés par l'Office de protection de la Constitution. 26 500, dont 13 500 qui appartiennent à la catégorie...
Pour un pays qui a plus de population que le nôtre.
13 500 qui appartiennent à la catégorie des militants orientés vers la violence.
Oui, oui. Ça fait beaucoup.
Pardon, je n'avais pas compris. Je pensais que vous posiez les questions sur les groupuscules. Effectivement, sur le socle, il reste assez stable, même si nous, après notre enquête, on pense qu'il est sous-évalué. Pour bien connaître les services de renseignement, je sais un peu comment ils calculent les gens. Et aujourd'hui, avec la caisse de résonance que représente la fachosphère, avec ces centaines de milliers de personnes qui sont sur les sites fachos, entre
oui,
guillemets,
oui.
et ces groupuscules qui se créent dans la clandestinité, et je pense notamment aux survivalistes radicalisés, et on a vu que depuis plusieurs mois et plusieurs années, depuis 2017, il y a eu quand même 5 groupuscules qui ont été neutralisés par les services de renseignement et qui avaient des projets d'attentats.
Oui.
Là, on a une nouvelle mouvance, si vous voulez, des gens nouveaux qui sont plutôt insérés dans la société, oui. qui ont un autre profil que ceux qu'on connaissait, les skinheads,
voilà.
crâne rasé,
alors,
etc.
Ce qui est intéressant, c'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage La Poudrière et qui rejoint les travaux qui ont été faits par ailleurs, c'est que ces activistes de ce groupuscule de l'ultra-droite infiltrent aussi les mouvements sociaux, par exemple les Gilets jaunes, on en parlera tout à l'heure, la mouvance des survivalistes. C'est une composition assez multiple, ces groupes de l'ultra-droite. Pour poser les enjeux du débat, je voudrais d'abord qu'on écoute ce que disait Laurent Nunez, coordinateur national du renseignement, à l'époque où il s'exprimait à notre micro. C'était le 3 janvier dernier dans le grand rendez-vous d'Europe. Écoutez-le.
On voit de plus en plus se développer ce genre de pratiques. La montée en puissance de ces mouvements suprémacistes, survivalistes, qui pratiquent le survivalisme chez l'ultra-droite, et qui forcément inquiètent d'abord parce qu'on a déjoué 5 attaques terroristes depuis 2017 rattachées à l'ultra-droite, et qui concernaient des individus qui s'inscrivaient dans ce type de profil.
Sylvain Boulogne, est-ce qu'il y a une convergence idéologique entre tous ces groupes?
Il y a un terreau beaucoup plus large dans la mesure où on a un parti d'extrême droite qui est quand même entre 20 et 25%, ce qui diffuse et infuse dans un certain nombre d'idées dans la société française. Après, l'ultra-droite en tant que telle, elle n'a pas fondamentalement changé depuis les années 60. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près toujours les mêmes structures, à peu près toujours le même type de groupe de militants, avec quelques nuances importantes, c'est-à-dire que il y a des évolutions sociales. C'est-à-dire que initialement, c'était plutôt des étudiants issus de bonnes familles. Là, on a une Je vais prendre un exemple. On a une évolution sociale majeure autour notamment de tout le phénomène hooliganiste et des supporters de clubs de foot. Oui. Où là, on a une, entre guillemets, prolétarisation d'une partie de l'ultra-droite. C'est un aspect. Après, il y a des nouveautés également. Hein, tout ce qui est cette mouvance survivaliste qui n'existait pas du tout, qui était infinitésimale, qui prend un aspect, enfin, qui prend une part plus importante. Qu'il faut relativiser également.
Est-ce qu'il y a toujours deux courants majoritaires quand même, Jean-Yves Camus, à savoir le courant qui est inspiré de la frange anti-musulmane et celle de l'antisémitisme ?
Alors, au bénéfice, j'allais dire, de l'âge, je regarde un petit peu jusqu'aux années 70, à la fin des années 70, et je constate effectivement deux choses. La première, c'est que l'antisémitisme perdure, notamment dans la frange néo-nazie. De toute façon, c'est leur raison d'être. Mais clairement, à partir des attentats du 11 septembre 2001, on voit une bascule et les groupes s'orienter plus précisément vers la mise en cause de l'islam, je dis bien de l'islam, pas de l'islamisme, et des musulmans en général, quel que soit leur degré de pratique.
Oui.
L'antisémitisme, il subsiste, je veux dire, il subsistera toujours. Il se reformule aussi dans un certain nombre de théories du complot. Mais il y a quelque chose sur quoi je veux insister, c'est que pour ceux qui ont connu les années 70-80, la violence, elle était déjà là, et elle était peut-être plus forte qu'elle est aujourd'hui. Dans la décennie 90, on va dire entre 85 et 95, et ça continue jusqu'à la fin de la décennie 90, le nombre de meurtres imputable à la mouvance skinhead politisée à l'extrême droite, il est important.
Oui, oui.
Voilà, et ce sont des affaires assez régulières. Skinhead, c'est un millier de personnes
à l'époque. Est-ce qu'il y a des nouveaux porte-voix quand même qui popularisent un peu les idées de cette ultra-droite ? On pense à Renaud Camus, théoricien du grand remplacement, on pense à Dieudonné, on pense à Alain Soral. Est-ce que ça, ce sont et qui utilisent aussi des réseaux de diffusion comme les réseaux sociaux, qui sont assez nouveaux quand même ?
Ah, mais ça dépend de la conception qu'on a de l'ultra-droite, mais si vous voulez, Renaud Camus ne vient pas de l'ultra-droite. Il a évolué, il a pris un certain nombre de positions.
Il en est un théoricien quand même aujourd'hui.
Oui, enfin, il en est un théoricien, c'est vite dit. Il a un mantra qui est le grand remplacement, et il décline ce mantra. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Dieudonné, bah, très honnêtement, pour voir aussi l'origine de Dieudonné à l'extrême droite, il faut quand même aller chercher loin. Et même Alain Soral n'est pas un produit pur jus de l'ultra-droite traditionnelle.
Oui, oui.
Donc, c'est ça peut-être le brouillage principal que la montée en puissance des réseaux sociaux a produit, c'est que tout s'est reformulé autour des théories complotistes en attirant des gens qui n'étaient pas au départ, j'allais dire, les héritiers des groupes d'ultra-droite des années 70-80. Il y a une rupture assez nettement.
Mais qui participe quand même à un terreau idéologique. C'est ce qu'on voit dans votre ouvrage, Jean-Michel de Gugy. C'est-à-dire que...
Nous, ce qu'on constate, et on a fait de la veille, hein, sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'on appelle ce livre La Poudrière, c'est qu'on pense que la situation est explosive. Et pourquoi elle est explosive ? Parce qu'il y a une radicalisation rampante.
Oui.
Sur les réseaux sociaux, avec une caisse de résonance qui est extrêmement importante. Et ça, c'est très nouveau. Et il y a, si vous voulez, ce terreau qui existe aujourd'hui dans la société française, avec des idées de l'ultra-droite qui sont diffusées, avec des relais, avec des personnalités publiques, des hommes politiques qui reprennent des idées aujourd'hui de l'ultra-droite. Et c'est ça qui est assez, pour nous, nouveau, et qui... Aujourd'hui, il y a un terreau, si vous voulez, pour, et c'est ça que craignent les services de renseignement, un passage à l'acte de ce qu'on appelle le loup solitaire, de quelqu'un qui est un peu fragilisé, qui est radicalisé, qui est seul face à son écran, et qui, eh bien, peut, parce qu'il est fragile, parce que ne va pas pouvoir passer à l'acte, comme on a vu dans les pays européens, et comme, dernier exemple en date, ce Frédéric Limolle, qui est un survivaliste radicalisé, qui tire sur des gendarmes, mais qui aurait pu faire un carton beaucoup plus important.
Bien, on marque une première pause, on se retrouve dans quelques secondes, on continue d'en parler, l'extrême droite violente à proportion terroriste. On se retrouve avec nos invités, vous restez avec nous tout de suite. 19h30, passé de 1 minute, on poursuit le débat du Club des idées ce soir, et on s'intéresse donc à la mouvance de l'ultra-droite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je vous le rappelle, a enclenché la dissolution de générations identitaires. On en profite donc pour s'interroger sur ces structures, sur la culture de la violence, sur la recherche de l'affrontement. mouvements nationalistes, suprémacistes, néofascistes. On va tenter de définir ce qu'est aujourd'hui l'ultra-droite et les dangers qu'elle représente pour la démocratie française. Je voudrais vous faire écouter par exemple ce que disait Yvan Benedetti, ancien président de l'Œuvre française, organisation dissoute par les autorités. C'était le 19 janvier 2019 lors d'une réunion publique à Rungis dans le Val-de-Marne.
Il faut non pas tenter de récupérer les gilets jaunes, mais il convient d'aiguillonner le mouvement, d'orienter le mouvement. Parce que les révoltes sont stériles, seules les révolutions sont salvatrices. Et nous sommes rentrés en période révolutionnaire.
Voilà, je trouve que cet extrait est assez singulier, Jean-Yves Camus, et nous éclaire aussi, vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, et nous éclaire aussi sur la manière dont ces mouvances tentent de capter la colère sociale. C'est le cas pour les Gilets jaunes ?
Alors, Yvan Benedetti tente de capter la colère sociale. D'accord. Avec combien de personnes tente-t-il de la capter et de détourner le mouvement des Gilets jaunes ? Les rares fois où je l'ai vu, une quinzaine. Dans les manifestations anti-PMA, anti-GPA, présent aussi avec une quinzaine de personnes. L'ex-œuvre française qui continue sous des noms divers, Parti nationaliste français, les nationalistes, quelques centaines de personnes à l'échelle nationale. Là, vous êtes en face d'un cas limite, de quelqu'un que même une condamnation pour reconstitution de Ligue dissoute n'a pas fait dételer. Mais cette tentative de détourner le mouvement des Gilets jaunes, même si des militants d'ultra-droite ont été impliqués dans le saccage de l'Arc de Triomphe, dans un certain nombre d'autres actions, il n'est pas arrivé à ses fins. Le détournement n'a pas pris, parce que les causes de la colère sociale qui ont donné le mouvement des Gilets jaunes, très honnêtement, ne sont pas récupérables par ces groupes qui, fondamentalement, n'arrivent pas à embrayer sur le mouvement
Mais donc,
social.
Vous me dites quoi ? Le sous-texte, c'est de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de menace de l'ultra-droite en France ?
Non, ce n'est pas ce que je dis. Vous n'êtes jamais à l'abri, effectivement, de quelqu'un qui, seul, va se radicaliser derrière son écran et qui va tenter de faire un carton. Vous pouvez même avoir quelqu'un, ça s'est produit à Bayonne, qui, malgré ses 84 ans, non seulement tente de faire un carton sur une mosquée, mais accueille les policiers venus l'arrêter en les mettant en joue, ce qui dénote quand même un degré de radicalisation assez élevé. Mais je ne suis pas du tout... D'abord, il faut le préciser, les services de renseignement, tous, ont ça dans le scope. C'est-à-dire que c'est une menace qui n'est pas négligée.
Mais est-ce qu'il y a une résurgence ? C'est ça le sujet. Quand j'entends Laurent Nunez nous dire tout à l'heure, on voit en ce moment une montée en puissance de la mouvance survivaliste ou suprémaciste au sein de l'ultra-droite, on entend forcément derrière, tiens, il y a un danger.
Pour moi, il y a un danger. Pardon.
Sylvain Bouloup.
Alors, il y a plusieurs types d'actions violentes et il y a plusieurs types de violences. Il y a ceux qui pourraient aller jusqu'à l'acte ultime, qui est l'utilisation d'armes à feu contre des personnes. Après, vous avez d'autres types de violences de plus basse intensité où vous les retrouvez de manière extrêmement fréquente dans toutes les manifestations ou dans un certain nombre de rassemblements associatifs. Ça, encore, il y a eu dernièrement un certain nombre de militants d'extrême gauche qui se sont fait casser la figure par des militants d'extrême droite. Donc, vous avez plusieurs types de violences.
Oui.
Il y a un des groupes, notamment, qui est très connu pour son ultra-violence qui s'appelle les Zouaves, où il manie la barre de fer de manière extrêmement fréquente. Et ça, c'est quelque chose de latent.
Alors, mais
ça,
là, attendez,
ça a quand
c'est
même
pas ce que nous dit Laurent Nunez. Laurent Nunez nous parle d'actes terroristes.
Oui. Laissez-moi terminer. Ça a quand même donné la mort d'un homme qui il y a 5-6 ans maintenant, qui s'appelait Clément Méry, qui a été victime d'un affrontement. Donc, il peut y avoir différentes formes de violence. Ça peut aller jusqu'à l'action armée, ça peut aller jusqu'à l'action terroriste. Après, il y a des formes d'intimidation qui relèvent de pratiques totalitaires du politique, qui sont ce qu'on peut voir dans...
Ça ne fera jamais le même nombre de morts que l'attentat de Nice.
Oui.
Ça ne fera jamais le même nombre de morts que l'attentat du Bataclan. Il faut à un moment donné...
J'espère qu'il n'y a pas de
hiérarchie dans le danger, on n'est pas là pour dire...
S'il y a une hiérarchie dans le danger. Aujourd'hui, on a des réseaux islamistes qui sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus financés, qui représente un nombre de personnes.
Plus aujourd'hui,
qui sont
ça l'a été, ça l'a été, c'est
beaucoup plus important.
Plus le cas aujourd'hui.
Alors,
attendez, le cas aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez.
Attendez, pardon. On n'est pas là pour comparer, excusez-moi, des émissions sur la radicalisation islamiste et sur les dangers des mouvances islamiques. On en fait très régulièrement.
Là, ce soir, la menace de l'islam. Regardez aussi,
la menace de l'ultra-droite, c'est une menace en miroir.
Voilà,
c'est une menace en miroir. Et je veux dire, chaque fois qu'il y a des attentats islamistes, vous avez, et je suis désolé, c'est pas. Vous avez des répercussions, vous avez des attaques contre les musulmans, contre des mosquées, etc. Vous parliez de ce monsieur de Claude Sanquet, mais moi je vais vous citer par exemple, après l'attentat, le dernier attentat de Nice, vous avez 2 heures après quelqu'un de génération identitaire, justement, qui était un militant, qui a mis son pistolet sur la tempe d'un musulman et qui a été abattu par la police.
Je ne veux pas comprendre dans ce niveau de comparaison, s'il vous plaît. Moi, je fais une émission par soir.
Ce
soir,
on a décidé
de s'intéresser à la menace et aux mouvances de l'ultra-droite. Sylvain Bouloc.
Je serais un peu plus nuancé sur le risque potentiel de crimes importants, dans la mesure où on a vu ce qui s'est passé à Christchurch, donc dans d'autres pays, au Danemark il y a quelques années, où vous avez un militant d'extrême-droite seul qui a pu tuer plusieurs dizaines de personnes. Donc, la possibilité d'avoir un homme armé qui abatte plusieurs dizaines de personnes.
Ah, mais elle existe.
Elle existe. Après.
Nice, c'est un homme, un seul homme, avec un camion.
Après, donc, c'est.
Et les mots d'ordre.
Ce discours, avec
aucune connexion avec l'étranger.
On peut peut-être se laisser parler les uns les autres. Merci, Sylvain Bouloc.
Ce discours et cette pratique, elle est potentiellement présente. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément passage à l'acte. Mais. C'est quelque chose qui existe de manière latente chez un certain nombre de militants qui s'appellent suprémacistes ou racialistes. Ils existent. Après, en termes de nombre...
Radicalité, par exemple, qu'on observe, pour faire un comparatif dans l'actualité récente par rapport à ce qu'on a observé aux États-Unis, ça peut exister aussi en France. Je lisais un papier ce matin du Figaro qui nous parlait de la mouvance QAnon qui est en train, vraisemblablement, d'arriver chez nous en France avec des premières manifestations. Est-ce que ça inquiète les services de renseignement, par exemple?
Moi, je ne sais pas si on ne doit pas comparer, mais en tout cas, le 17 novembre, un certain nombre de gilets jaunes... entourés de gens de l'ultra-droite, mais aussi de l'ultra-gauche, ont failli rentrer dans l'Élysée, dans le palais de l'Élysée. Mmh. Ben, je veux dire, c'est une évidence, ils ont failli rentrer. Et ils sont rentrés chez Griveaux, au ministère, en mars 2019.
Non, attendez, là, c'est pas vrai.
La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas le président de la République qui, auparavant, avait tenu meeting et avait engagé les militants à marcher sur le Capitole. Mais je crois qu'effectivement, ce qui va se passer dans les mois prochains, c'est sans doute que nos militants d'ultra-droite vont regarder de près ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça les fait, pour certains, pas mal fantasmer. Je crois que ça va être intéressant de voir aussi qui rencontre qui contacte qui, comment se bâtissent les passerelles. Mais l'événement majeur du 6 janvier, c'est un président des États-Unis qui, très imprudemment ou en toute connaissance de cause, fait un rallye, un meeting avec des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, oui. Et qui leur dit, grosso modo, allez-y. Il ne s'est pas passé la même chose en France au moment de la révolte des Gilets jaunes, et pour cause, heureusement.
Bien. Alors, on se retrouve dans quelques instants, et vous me direz si justement la dissolution décidée par Gérald Darmanin de Génération Identitaire, ça a un sens, et quel est le sens de cette dissolution? On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. 19h40, la suite du débat du Club des Idées, on s'intéresse à la mouvance de l'ultra-droite. Alors, je posais la question juste avant la pause, le ministre de l'Intérieur, effectivement, Gérald Darmanin, a enclenché la dissolution de Génération Identitaire. Est-ce que ça a un sens, ça, Jean-Yves Camus? Et si oui, lequel?
Ça a un sens dans la mesure où toute mesure de dissolution est toujours une décision politique. C'est-à-dire que, in fine... Une dissolution, c'est un signal qui est donné par le ministre de l'Intérieur, avec l'assentiment du président de la République. Là, le but, c'est de dire, écoutez, voilà, il y a une limite qui a été franchie. La limite, visiblement, ce sont les opérations anti-migrants dans les Alpes et dans les Pyrénées. Normalement, la police de l'immigration, c'est la police nationale et la gendarmerie qui l'assure. Ça n'est personne d'autre. Ça faisait déjà un certain nombre d'années que le décret de dissolution de Génération Identitaire traînait dans les cartons. Le dossier paraissait un peu faible juridiquement, savoir qu'on peut toujours contester devant le Conseil d'État une mesure de dissolution. Là, Gérald Darmanin prend le risque. Il le prend sur le fondement de 2 articles du L212-1 du Code de la Sécurité Intérieure. Le petit 2 qui permet de dissoudre les milices, hein, les groupes armés et les milices privées,
oui.
Et le petit 6 hein, qui se rapporte à la discrimination, hein, à la, la promotion ou l'incitation
c'est
à la discrimination.
C'est pas la première fois qu'il y a des groupes qui sont dissous. En 2019, il y a eu les dissolutions de plusieurs groupuscules d'ultra-droite, Bastion Social, Blood and Honor, Combat 18, qui ont été prononcés. Ça n'est pas une première, Sylvain Bouloc.
Non, mais de toute manière, il faut voir que Génération Identitaire est la résurgence d'un autre groupe qui s'appelait Unité Radicale dans les années 2000, dont un des membres, Maxime Bounery, avait manqué de tirer sur le président de la République. Donc, c'est une... Après, Génération Identitaire a évolué dans ses modes de communication, dans sa manière de faire de l'agite propre et dans son rapport à la sphère publique. Mais le terreau idéologique, il n'est pas fondamentalement si différent que ça. Alors, peut-être qu'il y a eu un abandon de la violence. Quoique, quand on regarde leur site et quand on voit les propositions d'entraînement de stages intensifs d'été, on peut se poser un certain nombre de questions.
Oui.
Mais... Toujours est-il qu'on n'est plus exactement dans la logique du groupe Unité Radicale, même s'il reste un soubassement et un fondement culturel qui peut alimenter un certain nombre de personnes.
Ils étaient plus dans la réflexion, ils sont plus dans la réflexion. D'ailleurs, ils ont servi beaucoup, ils ont été beaucoup au FN, en tout cas certains ont été au FN, et la génération identitaire est dans l'action.
Alors, sachant deuxième chose, sur quoi j'allais terminer, c'est qu'il y a un certain nombre des cadres de Génération Identitaire qui sont actuellement attachés parlementaires d'un certain nombre de responsables du Front National.
Donc il y a une normalisation de ces gens-là aujourd'hui dans la politique française, c'est ce que vous dites.
Non, ce n'est pas nécessairement une normalisation. C'est aussi le fait que pour tout militant de Génération Identitaire qui est, j'allais dire, pas trop idiot, qui a envie de faire quelque chose... À un moment donné, le seul débouché, le débouché naturel, c'est d'aller au RN. Parce que le Bloc a cessé d'être un parti politique, parce que quand il a présenté des candidats aux élections, il ne réussissait à faire que 5-7% dans son fief des Alpes-Maritimes, mais qu'il n'aurait jamais pu faire un parti politique autonome. Donc, à un moment donné, pour les militants les plus aguerris, on va dire les meilleurs, quoi, ceux qui ont quelques capacités, le débouché, c'est de devenir un jour assistant parlementaire et pour certains élus.
Alors, vous racontez dans votre livre, Jean-Michel Decugy, vous êtes grand reporter police-justice au Parisien, aussi quelque chose qui peut paraître une évidence, mais quand on ne connaît pas ces mouvances-là, il y a des codes, il y a des règles, il y a un esthétisme d'une certaine manière, il y a des gestes clandestins, vous évoquez le soleil noir par exemple, utilisé par les mouvements païens, la croix celtique ou encore le sanglier.
Le sanglier, oui, c'est le logo même des identitaires qui ont le sanglier. Il était aussi tagué sur l'Arc de Triomphe le jour du 1er décembre.
Oui.
Donc oui, il y a même des militants qui se font appeler le sanglier. Vous avez un leader, là on parlait des Zouaves, Marc Carqueret, qui se surnomme Marc-Antin, voilà. Donc voilà, il y a tout un symbole autour de ça qu'il faut décoder, effectivement.
Quel est le lien aujourd'hui entre ces groupuscules et le Rassemblement National, justement ? Vous évoquiez le Front National et le fait que certains ont trouvé une échappatoire, d'une certaine manière, dans la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien entre le parti politique Rassemblement National et ces groupuscules ? Qui veut répondre ?
Marine Le Pen a mis assez longtemps à accepter, par exemple, l'arrivée au FN de Philippe Vardon. Elle était déjà dans le processus de dédiabolisation. Elle craignait que l'entrée d'un dirigeant du Bloc nuise à cette entreprise. Aujourd'hui, Philippe Vardon est un élu RN comme les autres. Il a d'incontestables capacités. Il a un ancrage local. Donc voilà, il est normalisé. Un certain nombre de thèmes qui ont été lancés en avant-garde par le Bloc, notamment le thème du localisme qu'on retrouve aujourd'hui au Rassemblement National. Moi, j'ai retrouvé ce matin la couverture du magazine Les Identitaires de janvier 2011, qui rapporte justement un colloque sur le localisme. Mais sur l'immigration, Marine Le Pen est sur une ligne un peu différente. Elle ne peut pas assumer le langage du Bloc identitaire. Elle ne peut pas assumer le grand remplacement, terme auquel elle trouve des connotations complotistes. Elle ne peut pas assumer la remigration. Donc, à un moment, le Bloc identitaire, me semble-t-il, a, on appelle ça des avant-gardes militantes dans le jargon savant, le rôle qui consiste à lancer un certain nombre de thèmes, un certain nombre de mots d'ordre, dont certains, effectivement, se infusent petit à petit. Mais Marine Le Pen ne peut pas être sur la ligne du bloc identitaire complètement. C'est pour ça que lorsqu'elle a réagi à la mesure de dissolution, à la menace de dissolution, elle l'a fait sous l'angle des libertés publiques, en disant c'est attentatoire aux libertés publiques. Bien. Moi, je suis d'accord avec le bloc.
Sur ce point, Sylvain Bouloc.
C'est-à-dire, il y a des transfuges individuels. Ce n'est pas un phénomène collectif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir des individualités qui vont passer d'un groupe au parti ou parfois inversement. Mais ça, c'est le processus naturel. Quand vous avez un parti de masse et à côté un certain nombre de groupuscules, les groupuscules vont tenter de rejoindre le parti de masse pour pouvoir influencer ce parti de masse. Mais c'est du classique de sciences politiques de base. Hein. Oui. Ça arrive dans n'importe quel parti politique. Là, il se trouve que comme on a, quand on regarde l'extrême droite, c'est en l'occurrence le bloc identitaire, mais aussi d'un autre côté, la nouvelle droite diffuse et font infuser un certain nombre d'idées, ou alors, troisième, un éditorialiste célèbre sur une chaîne concurrente diffuse un certain nombre de ses idées, mais c'est dans la diffusion des idées qui peuvent. Alors là où ça devient important, c'est que comme on a changé, on n'est plus du tout dans les mêmes modes de communication que ceux des années 70 ou des années 50, comme on a changé de mode de communication, ces idées se diffusent de manière totalement différente. C'est-à-dire que les réseaux sociaux permettent la diffusion sans qu'il n'y ait plus de barrières qui soient réalisées par les partis. C'est-à-dire que les partis ne sont plus du tout les mêmes, n'ont plus du tout la même fonction par rapport à celle qui pouvait exister précédemment.
Il y a une nouvelle forme d'ailleurs de militantisme, Jean-Michel de Cugy, sur les réseaux sociaux qui permet aussi le recrutement peut-être de nouveaux activistes.
Mais moi, si vous voulez, c'est le phénomène de radicalisation. Qu'on connaît dans l'islamisme et qu'on connaît aussi à l'ultra-droite. Vous avez des gens, des centaines de il y a des sites qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes. Je pense à un site qui Démocratie Participative, qui est un site hébergé au Japon avec quelqu'un qui le dirige de là-bas et qui est intouchable, qui a été condamné par la justice française et qui continue à infuser de la haine. Et là, je parlais tout à l'heure de Frédéric Limolle, le tueur de gendarmes. Ce site, eh bien, qui a été à plusieurs reprises interdit, se reforme sous des URL. Et par exemple, lorsque Frédéric Limolle a tué ses trois gendarmes, il a rendu hommage à ce héros national. Mais on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir sur un certain nombre d'esprits fragiles pendant le confinement. Et moi, je pense qu'il y aura une vraie étude à faire sur quelle va être la répercussion sur des esprits fragilisés, le confinement, avec cette radicalisation par Internet, par les réseaux sociaux, qui est une caisse de résonance énorme de l'ultra-droite. Et l'ultra-droite a été parmi les premiers à s'accaparer la toile et à en faire des dégâts. Et ils sont experts dans la manipulation de l'information et de l'exploitation de l'information, quitte à fabriquer les informations.
Le titre de votre livre, Jean-Michel de Cugy, ça s'appelle « La poudrière » avec Pauline Guéda et Marc Le Plongeon. Julien Le Pen, un lutteur syndicaliste et libertaire, c'est votre livre, Sylvain Bouloc. Merci infiniment. Vous n'avez pas de livre à présenter, mon cher Jean-Yves Camus.
Pas en français. Une bibliothèque, vous avez, vous. Pas en français.
Bon, merci à vous, merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange sur la mouvance ultra-droite. Merci.
Europe 1. Julien Bugier.
19h50, vous restez avec nous dans quelques secondes. Les archives d'Europe Soir. Retour en 74 aujourd'hui, quand Solzhenitsyn, l'un des plus virulents opposants à l'URSS, est banni par les soviétiques. On vous raconte l'histoire secrète avec nos archives, comme tous les soirs. À tout de suite.